Bonjour à tous. Voilà, je vous invite à prendre peut-être 10 ou 15 secondes dans le silence avant de lire le passage de l'Écriture qui s'agira pour la prédication. Donc, 15 secondes de silence juste pour se préparer à entendre la parole. Dans la lettre aux Galates, nous irons au chapitre 2 et nous irons les versets 1 au verset 16. Chapitre 2, versets 1 à 16. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit: 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. Je suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont imposé rien de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les circoncis. C'était les incirconcis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Cephas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions nous vers les non-juifs et eux vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de faire. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous: « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ? Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juif, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclaré juste sur la base de la foi en Christ et non sur les œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » Et voilà, une petite rencontre entre Pierre et Paul, et bien, qui n'est pas de la plus fraternelle au premier abord. L'apôtre Paul, quand il écrit cette lettre aux églises de la Galatie, il n'est pas en train d'écrire à la petite église de Darnay. Non, il écrit à toute une région où il y avait beaucoup d'églises et beaucoup de faux docteurs. C'était infiltré dans les églises et prêché surtout que vous ne pouvez pas être sauvé, vous païens, uniquement par la foi. Vous devez avoir la foi plus la mise en pratique de la loi avec la circoncision et tout. Et l'apôtre Paul, donc, écrire cette lettre, qui est parfois avec des expressions assez fortes, un peu virulentes, comme ça, aller jusqu'à leur dire, si vous obéissez à la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc, vous voyez, des paroles qui interpellent. Pour bien comprendre cette lettre aux Galates, il ne faut pas oublier que dans Actes, au chapitre 15, nous avons ce que nous appelons le Concile de Jérusalem, où tous les apôtres, les anciens des églises se sont réunis et ont discuté longuement, est-ce que les païens qui se convertissent doivent se faire circoncire et obéir à la loi. Et après certainement plusieurs jours ou semaines de discussion, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais là on est ressorti que nous sommes sauvés au moyen de la foi, sans les œuvres de la loi. Et l'apôtre Paul, apôtre de la grâce, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle, mais aussi apôtre de la liberté. Et dans la lettre aux Galates, une des phrases principales, il dira, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. John Stott, dans son commentaire, enfin le titre de son commentaire, c'est appelé à la liberté. Ici, la rencontre entre Pierre et Paul, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une concurrence entre les deux. Est-ce que Paul profite de ce moment-là pour dire, tac, je casse un petit peu le Pierre là? On peut se demander ce qui se passe là. En fait, l'attitude entre Paul et Pierre est fraternelle, malgré les paroles et les échanges qu'il y a là. Seulement, il y a tout un contexte. Pierre, c'est un juif, avec sa culture de juif, son histoire de juif. Et rappelez-vous que lorsque Pierre ira chez Corneille, il aura beaucoup de mal à entrer chez un païen. Et quand il va aller chez Corneille, ce païen qui va annoncer l'évangile et qui va revenir à Jérusalem, la première chose qu'ils font les autres, mais le rouspète, mais comment t'as fait pour rentrer chez un païen? Donc vous voyez, ce renversement de culture n'était pas du tout évident. Et là, de se faire reprendre devant tout le monde, c'était pas évident non plus. Hein. C'est quand même le grand apôtre Pierre. Hein, et quand on voit l'apôtre dans les évangiles, qui est un petit peu le leader, le meneur de cette équipe, celui qui prend toujours la parole en premier, c'est quand même à lui que Jésus a dit, je te donne la clé du royaume des cieux. C'est lui qui prêchera le premier aux Juifs, qui prêchera le premier aux Samaritains, enfin, à la suite un peu de Philippe, mais qui ouvrira aussi la porte du royaume aux païens. Et là, il se fait reprendre par l'apôtre Paul. Mais l'amour de la vérité va l'emporter. Alors je vous pose une question. Est-ce que nous sommes prêts à faire mourir notre réputation par amour pour la vérité de l'Évangile? L'apôtre Pierre va se faire reprendre devant tout le monde. Mais après, on voit qu'il va parler en bien de l'apôtre Paul. Je pense que faire mourir notre réputation, c'est peut-être un domaine où on a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Parce que Pierre, en revenant, je me dis peut-être qu'après, certains disent, bah Pierre, maintenant c'est Pierre celui qui s'est fait reprendre par Paul. On va peut-être plus l'appeler Pierre, ah oui, Pierre, celui qui a connu Jésus. Mais peut-être qu'on va dire, oui, le Pierre, là, l'autre fois, il s'est pris un cigare par l'apôtre Paul, je ne te dis pas comme... C'est vrai qu'en lisant ce texte, rapidement, on pourrait déduire que Paul était un chrétien totalement libéré de la loi et que Pierre était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à vivre dans la liberté que Christ nous a acquis. Et on pourrait penser que pour Pierre, sa réputation passait avant l'Évangile, et que c'est pour ça qu'à un moment donné du repas, quand il a vu des chrétiens d'origine juive arriver, hop, il s'est barré, parce que, attends, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et surtout Jacques, son pote là-bas qui est à Jérusalem. On pourrait penser que Paul en profite pour rabaisser Pierre, dans le but de s'élever et dire, attendez, c'est moi qui ai le vrai Évangile. Oui, Pierre, ce qu'il vous dit, c'est bien, mais attention, moi, j'ai l'Évangile, celui qui rend vraiment libre. Mais je pense que là, on passerait à côté de l'idée. Je crois que le but de Paul est avant tout de défendre, comme il est dit au verset 14, la vérité de l'Évangile. Voilà ce qui est important à ses yeux. Défendre la vérité de l'Évangile. cet évangile qui nous sauve. Hein, Paul, c'est vraiment le prédicateur de la grâce, ça ne veut pas dire que c'est un homme qui vit sans loi. Maintenant, une précision importante. Paul, lui, il est conscient de ce qu'il est, lui, en tant qu'apôtre. Il a compris des choses dans l'évangile, je dirais, en profondeur. Mais il le dit un peu avant, il a reçu une révélation du Seigneur. Il ne met pas en avant le fait que j'étais un pharisien, je connaissais la loi et regardais la grande connaissance que j'ai. Non, non, non. Il dit, l'évangile que je vous prêche, je l'ai reçu directement par une révélation de Dieu qui m'a donné d'avoir une grande compréhension. Et la liberté dans laquelle il marche, la connaissance de l'évangile, tout ça, il est conscient qu'il le doit à l'œuvre de la grâce en lui, ou si vous préférez, à l'action de l'Esprit en lui. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, cette phrase que certains savent que j'aime beaucoup, l'apôtre Paul dira, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce en fait moi n'a pas été vaine. » Il est conscient qu'il n'est pas le grand apôtre Paul. Dans ses lettres, il dira, « Je suis le moindre des apôtres, j'ai persécuté l'Église, et tu n'es même pas digne d'être appelé apôtre. » Quand on avance dans la vie chrétienne, si on commence à avoir l'idée en nous, qu'est-ce que je deviens grand devant le Seigneur, on n'est peut-être pas sur le bon chemin. L'apôtre Paul, plus il avance, plus il se sent petit pécheur. Alors, je vous propose de voir trois points avec Paul et Pierre. Pour chacun, on va voir leur comportement, après leur motivation et des conséquences, donc de leur action. Pour Pierre, il est dit qu'au moment où des judéo-chrétiens, donc des chrétiens d'origine juive, arrivent alors qu'ils sont en train de faire un repas, Pierre, hop, va s'éclipser. Et il dit là, il mangeait avec des non-juifs. Plus littéralement, c'est il prenait ses repas et le temps qui est utilisé dans le texte original montre que c'était une habitude. Donc, il était peut-être là pour un temps assez long. Hein, et voilà, c'était régulièrement, ben, il prenait des repas tous ensemble. Quand on dit ça, hein, c'est pas grand-chose hein, pour eux. Hein? Les repas dans la Bible, c'est le signe de la communion. Et là, que des juifs prennent des repas avec des non-juifs, ça montre vraiment que Christ est venu briser, abattre le mur de séparation et que des deux, il n'a fait qu'un seul corps. Vous voyez, vous pouvez relire la lettre aux Éphésiens où l'accent est mis sur l'unité du corps de l'Église. Et Paul va expliquer ce mystère. Hein, que le peuple juif va se retrouver avec des non-juifs pour former un seul corps et au centre il y a la croix. L'apôtre Paul estime que c'est important d'écrire quasiment toute une lettre sur l'unité dans l'Église. Donc vous comprenez ce qui est en train de se passer, hein? Des chrétiens d'origine juive mangent avec des chrétiens d'origine non-juive. Ils montrent l'unité du corps de Christ. Ils montrent que ces peuples sont réconciliés par la croix de Christ. Et donc il y a toute une théologie derrière, et là, il y a un grand risque de division de l'Église. Donc de dire qu'ils sont en train de manger là, ensemble, franchement, c'est vraiment quelque chose de fort. Donc quand Pierre se sépare, c'est tout aussi fort, pour ceux qui sont en train d'observer. Mais à ce moment-là, ça n'avait plus l'air de gêner Pierre de manger avec des non-juifs. Alors qu'avant, pour rentrer chez Corneille, il a eu des miracles extraordinaires de voir cette nappe qui descend, d'entendre directement la voix de Dieu pour transformer la mentalité de Pierre. Avant qu'il aille chez Corneille, Dieu va multiplier les miracles. C'est l'endroit dans la Bible où il y a le plus de miracles concentrés pour changer la manière de penser d'une personne, pour lui dire « enlève tes vieux vêtements et remets des nouveaux ». Alors quand les frères d'origine juive arrive, les gens de l'entourage de Jacques, Pierre se débine. Il est dit, il s'est esquivé ou il s'est dérobé. En d'autres termes, ben, il est sorti discrètement par la petite porte de la cuisine et pas par la grande porte. Vous voyez, hop là, il ne faut pas qu'il me voie là parce que attention, qu'est-ce qu'ils vont dire? Attention à ma réputation. C'est bien, il y en a qui suivent. Pourtant, je me dis, c'est chrétien d'origine non juive qui va y arriver, je vais dire entre guillemets, le grand apôtre Pierre, qui vient manger à leur table. Et ces gens-là devaient se sentir honorés quand même. Voilà, l'apôtre Pierre, celui qui a connu Jésus, là, qui a vécu avec 3 ans, celui qui a prêché à la Pentecôte devant 3000 personnes, celui qui a accompli des miracles tellement extraordinaires qu'on couche les malades dans la rue pour que quand son ombre, elle passe, elle touche les malades et que soit guéri. Non, vous imaginez, on verrait ça aujourd'hui, non? Hein, quand vous lisez ça dans la Bible, wow, c'est extraordinaire. Et ce gars-là, il s'arrête et il mange chez ces gens. Il est en train vraiment de les honorer. Et pourtant, il va les quitter brutalement. Qu'est-ce qu'ils pensent au moment-là, les gens autour de la table? Pourquoi ils parlent? Et tout d'un coup, on sent le fioul ou quoi? Enfin, il n'y a peut-être pas de fioul au moment-là, mais... Il faut se poser des vraies questions. Moi, je pense que... Peut-être que ces chrétiens d'origine juive, quand ils arrivent, l'apôtre Pierre sait ce que ces gens prêchent. Ils sont certainement en train de prêcher la nécessité de la circoncision, la nécessité de se remettre sous la loi. Et peut-être que Pierre a peur de la confrontation avec eux. Certains même disent qu'il prêchait certainement, il n'est pas convenable pour des chrétiens d'origine juive de manger avec des chrétiens d'origine païenne s'ils ne sont pas circoncis, qu'ils n'observent pas la loi, vous êtes en train de vous rendre impur. En tout cas, c'est l'idée de John Stott dans son commentaire. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé Pierre au moment-là à se barrer comme ça? Il avait été chez Corneille, Dieu a transformé sa mentalité, il a mangé avec, il a bien vu que le feu du ciel n'est pas tombé. Il a même rendu compte aux chrétiens à Jérusalem, il a expliqué la chose. Et après, quand il va en Samarie, mais bon sang, il a évangélisé tous les villages, il n'a pas fait de tri, je veux dire. Alors qu'est-ce qu'il fait qu'au moment-là, tout d'un coup, tchac, il change? Pourquoi rompre cette communion? Pourquoi cette peur d'être vu en compagnie de frères et sœurs qui ont reçu la même grâce, qui adore le même Seigneur, avec qui il avait peut-être partagé la scène, parce que quand on lit l'Écriture, on a l'impression qu'il prenait la scène plus régulièrement que nous. Alors pourquoi tout d'un coup il se bat? Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même assez difficile de penser que les discours de ses frères, tout d'un coup, l'auraient convaincu qu'il fallait s'en aller. Je pense pas que c'est ça. Je pense pas que ces gens sont arrivés, ils ont dit « Ah, vous ne pouvez pas faire ça », puis qu'ils se barrent. On a l'impression, disons le texte, que l'impression que ça donne, c'est qu'ils les voient arriver et qu'ils se barrent avant. Pourtant, avec ce qu'il a vécu, on aurait pu penser que Pierre, son côté un petit peu lâche, aurait été mort. Rappelez-vous, il a quand même renié 3 fois Jésus devant des gens simples. Moi, ce que je pense tout simplement, c'est qu'à ce moment précis, sa vieille nature de juif a tout d'un coup repris le dessus. Simon le juif a pris le dessus sur Pierre le chrétien. Vous voyez, il a expérimenté ce que Luther a dit, j'ai jeté ma vieille nature au fond de la mer, mais j'ai appris, ma vieille nature a appris à nager. Vous voyez? Il pensait certainement être totalement libéré de cette vieille nature et tout, prêcher l'évangile et tout. Et là, à un moment donné, les circonstances font que hop, cette vieille nature prend le dessus. Il n'arrive pas à maîtriser ça et se laisse avoir, je dirais, emporter. Ça ne veut pas dire qu'il a renié ses convictions, pas du tout. Mais là, il a eu comme un moment de faiblesse, une peur qui est remontée comme ça. Ah, puis peut-être un petit peu aussi que... Qu'est-ce que va dire le grand Jacques à Jérusalem quand je vais rentrer? Comment je vais pouvoir m'expliquer? Je crois qu'il y a quand même une petite peur de sa réputation auprès de ses frères d'origine juive. Et là, c'est le vieux Simon qui l'a remporté sur le nouveau Pierre. Mais alors, quelles sont les conséquences? C'est quelque chose qui ne dure pas longtemps, hein, finalement, si on avait pris un chronomètre. Ça ne dure pas longtemps, hein. À côté de ces combien, 10 ans, 15 ans de ministère qu'il a là déjà, combien de temps que ça dure ça? 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, je ne sais pas, mais ça ne dure pas longtemps. Dans cette situation précise, au moment-là, Pierre pense à lui et aux conséquences qu'il peut avoir, à la relation avec ses frères, de ce qu'il va dire, de comment ça va se passer. D'un seul coup, il ne pense qu'à lui. Ah, s'il me voit manger avec des chrétiens d'origine païenne, genre, va encore me faire tout un blabla là-dessus, là, à savoir que je m'explique, et puis si ça se prouve, je suis peut-être impur de faire ça. Ah, il pense aux conséquences pour lui. Mais il ne pense pas aux conséquences que son attitude a sur les frères et sœurs autour, et à tout ce que ça va se dire après, jusqu'où que ça va se répandre. Hein? Pierre a renié 3 fois à Jésus, ça a duré 2 minutes, 2000 ans après, on en parle encore. Hein? Bon, je veux dire, je décale un peu les choses, mais vous voyez, comme des petites choses. Hein? Moi, ça fait 5 ans que je bosse avec vous, si je venais à faire une grosse gaffe, je vous promets, dans 10 ans, on parlait de la grosse gaffe et pas de ce qui a été fait, on se rappelle toujours les choses mauvaises. C'est inscrit en nous. Hein? Surtout nous les Français. Hein. Le mur là, il est blanc, s'il y a un petit point noir. Qu'est-ce que vous voyez ce mur? Tout le monde dirait, il y a un point noir. Personne dirait, je vois un mur 99,9% blanc et un petit point noir. Donc tout le monde dirait, je vois le petit point noir. Là, pour ce qu'il vient de faire Pierre, je vais autant vous dire que les gens claquent. Ils vont mettre le doigt dessus. Une des conséquences, c'est que Pierre, qui est considéré comme une colonne de l'Église naissante, son enseignement est considéré comme quelque chose d'important, mais la vie qu'il mène doit totalement correspondre avec son enseignement. Parce que les gens vont dire, oui, mais Pierre, il nous dit qu'on peut manger avec des chrétiens d'origine païenne, mais lui, hein, l'autre fois, il s'est barré au repas. Alors, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a peut-être un décalage. Donc maintenant, dans ce qu'il va prêcher, on va faire un petit peu attention d'observer. Est-ce que oui, déjà, il est bien le premier à vivre comme ça. Hein, il nous dit que ceci et ceci, oui, mais lui, est-ce que vraiment dans sa vie, c'est comme ça? Et puis, une des conséquences qu'a tout de suite vu l'apôtre Paul et contre laquelle il veut tout de suite combattre, c'est qu'il risquait d'avoir une division entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. L'apôtre Paul va lutter pour pas que ça arrive. Hein. Alors maintenant, pour l'apôtre Paul, quel est son comportement? Paul y juge rapidement la situation. Il s'oppose à Pierre devant tous parce qu'il faut agir tout de suite. Tant pis pour Pierre s'il va être un peu blessé, tout ça. Il faut agir tout de suite. Notons au passage qu'il faut du courage, hein. Confronter l'apôtre Pierre devant tout le monde, il faut du courage. Mais il ne peut pas laisser passer la faute de Pierre. Il sait qu'elle peut avoir de graves conséquences. Pierre est donc regardé comme un des responsables de l'Église, et ça, son comportement doit refléter la doctrine. Et Paul, tout de suite, il intervient, apparemment, comme il le dit, d'une manière un peu virulente, mais il intervient. Et sa motivation, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui motive Paul pour intervenir comme ça? Il faut quand même préciser avant de dire les choses, il n'y a pas de conflit entre Pierre et Paul. Hein? Les lettres qu'on voit quand ils se parlent, il n'y a pas de conflit entre les deux. Il n'y a pas à savoir qui est-ce qui est le meilleur, il n'y a pas de concurrence. Il y a une reconnaissance même mutuelle de leur ministère. Et Paul ne profite certainement pas de cette occasion pour passer au-dessus de Pierre. Qui motive Paul? Défendre la vérité de l'Évangile. La doctrine qui est en jeu ici, c'est la doctrine de la justification par la foi, seule, sans les œuvres de la loi. Et la vérité de l'Évangile passe avant tout pour l'apôtre. Je vous rappelle pour la xème fois qu'à ce moment-là, le Nouveau Testament n'est pas écrit. Il y a des lettres qui tournent, mais le Nouveau Testament n'est pas écrit. Et c'est qu'au IVe siècle que le canon de l'Écriture sera totalement déterminé. Mais jusque-là, du temps des apôtres où ils prêchent, de leur temps à eux, c'est tout oral. Les premiers écrits, les évangiles, ont été écrits dans les années 65, je veux dire. Il n'y a pas toute la matière qu'on avait. Donc ce que disent les apôtres fait autorité. Ce qui fait autorité, c'est leur parole, c'est leur discours. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc si leur vie ne correspond pas à ce qu'ils enseignent eux-mêmes, eh ben, ça ne porte pas. Et l'apôtre Paul est bien conscient de ça. Et donc sa motivation, défendre la vérité de l'évangile. Martin Luther, le réformateur, a dit en commentant ce passage, Il se trouvait ici, non devant un sujet sans importance, mais devant l'article central de toute la doctrine chrétienne. Car qu'est-ce que Pierre? Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'un ange du ciel? Que sont toutes les créatures face à l'article de la justification? En effet, si nous connaissons cet article, nous nous trouvons dans la lumière, tandis que si nous l'ignorons, nous nous trouvons dans l'obscurité la plus triste. Paul dit que Pierre et les autres manger sans se laver les mains. Ah non, c'est pas ça, excusez-moi, c'est pas une bonne traduction. Il dit que Pierre et les autres ne marchaient pas selon la vérité de l'Évangile. Ils ne marchaient pas selon la vérité de l'Évangile. Si nous affirmons que dans l'Église, tous sont justifiés par la foi, donc tous sont frères et sœurs. Il n'y a plus de séparation entre eux. Ils forment un seul peuple qui est le peuple de Dieu. Il faut le dire, il faut le prêcher, il faut l'enseigner, et surtout pour Paul, il faut le vivre. Et Paul ne tolère aucune déviation sur la justification. L'enjeu est trop grand, le risque de division était présent, et il intervient tout de suite. Pas qu'il y ait de petites graines qui se mettent dans le cœur des gens et puis après qui vont pousser et porter des fruits. Le raisonnement de Paul est le suivant. Si Dieu a choisi de justifier gracieusement tous ceux qui se tournent vers lui par la foi et d'en faire un seul peuple, qui sommes-nous pour refuser d'être en communion avec des croyants tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'origine juive? Qui sommes-nous pour diviser ce que Dieu a uni? Alors, quelles sont les conséquences de ce que Paul fait? Nous savons par l'acte 15, donc, qu'il y a eu cette conférence de Jérusalem qui va débattre de ce sujet. Est-ce qu'on est justifié par la foi seule ou est-ce qu'on est justifié par la foi plus les œuvres de la loi? Moi, je dis qu'une des conséquences de l'intervention de l'apôtre Paul, ça a permis de ne pas diviser l'Église. Mais une chose très importante, j'espère qu'il ne choquera personne, c'est que Paul montre que les apôtres ne sont pas au-dessus de l'Évangile. Ils sont soumis à l'Évangile. Et même un apôtre Pierre peut être repris par un autre frère s'il ne marche pas selon la vérité. Vous voyez, c'est très intéressant pour nous en tant que chrétiens, les enseignements qu'on peut en tirer par rapport aux responsables d'Église, de mission. Ce qui est le plus important, ce qui est inspiré chez les apôtres, ça sera leurs écrits, leurs prédications, leurs enseignements, mais pas forcément leur manière de vivre. Pas forcément. Même s'ils sont appelés à avoir une manière de vivre qui correspond avec ceux qui prêchent, leur manière de vivre n'est pas toujours un enseignement. Quand l'apôtre Paul, avec Barnabas, forme une équipe missionnaire, ils embarquent Marc avec eux, à un moment donné, Marc se sépare d'eux, ils continuent leur tournée, après Paul dit, allez, on va refaire le tour des églises et tout. Barnabas dit, attends, on va prendre Marc avec nous, et Paul il dit, non, on ne veut pas de Marc. Il nous a abandonnés, tout ça, il n'a pas la patate, tout ça, on ne veut pas. Et il dit qu'ils se prennent le chou et... il se sépare. Mais ce n'est pas un modèle. C'est pas un modèle de dire, on doit faire comme Paul, dès que ça ne va pas, on dit à l'autre, tu dégages, et puis c'est pas un modèle. Heureusement, Pierre on te parlera de Paul en parlant du frère bien-aimé. Et on sait qu'il n'y a pas eu séparation après des personnes, et Barnabas, on voit qu'il va retravailler avec. Donc, malgré les choses qu'on voit, il n'y a pas eu de division. Mais parfois, un Paul ne pouvait plus travailler avec un Marc. Et plutôt que d'avoir une équipe missionnaire où on se prend tout le temps de choses, ils ont dit, vaut mieux qu'on se sépare, on travaille chacun de notre côté. Mais Paul, à un moment donné, dans une lettre, il parlera de Marc, quelqu'un qui lui est utile pour son ministère. Donc ça me fait plaisir de voir que Pierre, malgré qu'il était apôtre, n'était pas infaillible. Je suis désolé pour nos amis catholiques qui pensent que Pierre était le premier pape et que le pape est totalement infaillible. On a vu, il peut être fatigué et prendre sa retraite, il a le droit, je crois. Mais voilà, c'est quand même un enseignement. Pierre n'est pas quelqu'un d'infaillible. malgré qu'il avait le titre d'apôtre. C'est un encouragement pour nous chrétiens de nous dire, les apôtres n'étaient pas des supermen de la foi, et nous n'avons pas à devenir des supermen de la foi. Pour conclure, je dirais quelques remarques. Nous sommes appelés à marcher selon la vérité de l'Évangile, même quand parfois il y a un prix à payer. Celui parfois de faire mourir notre réputation. Nous devons finalement pas avoir peur du « qu'en dira-t-on » quand dans ce que nous faisons, nous voulons mettre en avant l'Évangile. Croyons aussi que dans des moments difficiles, de faiblesse, qu'on se retrouve dans des situations comme l'apôtre Pierre, dans ces moments-là, nous pouvons vraiment recevoir la grâce d'avoir un comportement qui honore Dieu. Dieu ne nous rejette pas parce que nous avons des moments difficiles ou de faiblesse, mais dans ces moments-là, il nous montre peut-être, regarde qui tu es, comme tu as besoin de moi, de ma grâce. Et c'est une bonne chose d'apprendre à dépendre de la grâce de Dieu. Je veux aussi nous rappeler que dans des moments donc difficiles ou de peur, cette parole de Jésus qui a dit, en parlant à ses apôtres, il a dit « Quand on vous mènera devant des tribunaux, mon Père lui-même vous mettra dans la bouche ce que vous devez dire. » Ayons confiance qu'il y a des promesses dans la Bible qu'on peut se saisir, qu'on peut s'attacher, qu'on peut vivre. Mais ayons aussi cette humilité de nous laisser reprendre par des frères et des sœurs lorsqu'on commence à s'égarer de l'Évangile. C'est une grâce qu'un frère ou une sœur puisse venir nous dire « Attends, là, j'ai l'impression quand même que tu dévies ou que ce que tu as dit n'est pas tout à fait juste et de revenir dans le droit chemin. » Nous avons besoin de la communauté, nous avons besoin de veiller les uns sur les autres. Nous avons besoin de veiller à ce que la vérité de l'Évangile soit prêchée, enseignée, proclamée dans toute sa pureté. Que le Seigneur puisse vous bénir et que par vos vies, l'Évangile puisse briller autour de vous. Amen.